Bonjour chers auditeurs, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Laurent Tillon. Alors Laurent Tillon, vous savez tout ce qu'il sait, c'est un biologiste, il est ingénieur forestier à l'Office national des forêts, il est passionné par la forêt et puis par une toute petite bête, enfin oui c'est ça qu'on va dire, qui est une chauve-souris. Est-ce que je peux savoir d'où vient cette passion, j'allais dire, pour les chauves-souris ?
Bonjour, alors oui, effectivement, les chauves-souris font partie un peu de mon quotidien depuis très longtemps. En fait, j'étais tout petit, j'avais 5 ans seulement, quand dans le Perche, dans la ferme familiale maternelle, j'y allais tous les mois, un week-end par mois, et lors d'une tempête, à un moment donné, les volets ont claqué, l'imagination de l'enfant s'est envolée. Et puis, quand le vent s'est calmé, une chouette est venue se poser sur la gouttière. Et ça a été l'occasion pour mes grands-parents et ma famille d'évoquer toutes ces bêtes nuisibles qui portent malheur. Et on a évoqué, bien sûr, les chouettes, mais aussi les chauves-souris.
Ah bon, ça porte malheur, les chauves-souris ?
Mais c'est ce que beaucoup de croyances populaires évoquent.
D'accord.
Et ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, même souvent, quand on a des chauves-souris chez soi, ça veut dire que les maisons sont saines. Ça veut dire qu'elles elles ne portent pas de champignons, par exemple. Mm-hmm. Donc, en fait, moi, j'étais resté avec ça jusqu'à mes 15 ans, période de l'adolescence, un petit peu difficile pour moi, un peu rude.
Oui.
Et avec mon vélo, je me promenais beaucoup. Et à un moment donné, je vois l'entrée d'une grotte en vallée de l'Eure. J'y pénètre et je vois ma première chauve-souris, vraiment, en plein hiver. Et contrairement à ce qu'on m'avait dit, elle n'était pas du tout dangereuse, elle présentait aucun danger pour moi. Je m'y suis approché, elle était endormie.
Mmh.
Et puis, j'ai eu envie d'y revenir. Et à partir du moment où on commence à les observer, à les regarder, très très vite, on se rend compte que ce sont des animaux exceptionnels, à la fois des super-héros, mais aussi des animaux qui sont peut-être plus attentifs à nous qu'on ne l'imagine.
D'accord,
et à partir du moment où on met le doigt dedans, vous savez, c'est un peu comme la potion magique pour Obélix, une fois qu'on a plongé dedans tout petit, après c'est fini, vous êtes totalement dépendant.
D'accord. Alors cette première chauve-souris, est-ce qu'elle avait la tête à l'envers ?
Exactement. Elle était en hibernation. Elle était posée sur une paroi de la cavité à hauteur d'homme et du coup, elle était tranquillement posée là.
Et ça dort toujours la tête à l'envers ?
Pas toujours.
Ah, d'accord.
Pas toujours, ça dépend des contextes. En réalité, souvent, elles se mettent la tête à l'envers parce qu'elles se suspendent en hauteur pour être hors de portée des prédateurs possibles. Par exemple, un renard qui passerait là et qui profiterait pour attraper l'animal qui est posé.
Oui, tu peux aussi te mettre en hauteur la tête en avant, hein.
Oui, mais du coup, ce qu'elles font, ça leur arrive. C'est-à-dire que dans plein de cas, elles sont simplement posées à plat quand il y a un rebord.
D'accord. Mais non, parce que ça m'intriguait cette histoire de tête à l'envers. Je me disais, c'est pas courant, même chez les animaux.
Ah non, c'est assez rare. Hein.
Ah
c'est
ben
assez
voilà.
rare, mais c'est vrai qu'elles ont évolué pour se permettre de se mettre à distance des prédateurs éventuels, donc se suspendre, et elles ont développé notamment une musculature et un développement des organes permettant notamment d'éviter l'afflux de sang dans le cerveau et de renvoyer le sang dans l'intégralité du corps. Effectivement, éviter les lésions cérébrales liées à l'afflux de sang.
Oh, mais c'est dingue ça. Et comment elles ont découvert ça, tu sais ça ?
Alors ça, c'est le fruit de l'évolution, hein. C'est au fil du temps.
Ouais.
Et c'est vrai qu'elles ont développé une musculature au fur et à mesure, par exemple, qui a permis le développement d'une cage thoracique absolument incroyable, avec une ossature laissant particulièrement beaucoup de place aux poumons et au cœur. Et pour comparaison, hein, par rapport à nous, le cœur d'une chauve-souris est 3 fois plus volumineux. Et c'est ce qui rend, du coup, l'animal particulièrement puissant pour assurer le vol et assurer sa propagation dans l'espace, notamment en forêt.
Mais c'est dingue, cette histoire. Et comment est-ce que tu as découvert ça, donc cette puissance de intérieure, quoi ?
Ouais, alors c'est beaucoup de lectures, c'est-à-dire que finalement, alors c'est assez étonnant parce que ce sont des animaux qui à la fois sont peu connus, il y a quelques biologistes qui ont travaillé dessus, qui ont réussi à percer certains mystères, mais certains d'entre eux sont restés pendant très longtemps. Mais du coup, il y a des biologistes vraiment qui se sont dédiés à la physiologie de l'animal et qui, petit à petit, ont percé certains mystères. Par exemple, parmi les mystères, il y a le mystère de comment font-elles pour voir la nuit. Et c'est à la fin du 18e siècle seulement, enfin vers la deuxième moitié du 18e siècle, qu'un biologiste a découvert que les chauves-souris entendaient par les oreilles. Qu'elles voyaient par les oreilles.
Ah oui.
C'est-à-dire que vraisemblablement, les oreilles jouaient un rôle fondamental pour leur permettre de se repérer dans l'espace. Alors, ils ne savaient pas exactement comment ça fonctionnait.
Ah oui.
Ils l'avaient découvert parce qu'à l'époque, l'éthique animale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, les expériences qu'il a menées ont consisté notamment à crever les yeux de chauves-souris, à leur bander les yeux, leur bander carrément toute la tête. Mmh. Les pauvres ont souffert, les pauvres se sont pris des murs dans bien des cas. J'imagine qu'elles étaient stressées et paniquées. Et à un moment donné, il en avait laissé quelques-unes intactes, mais il leur avait coulé de la cire dans les oreilles. Et à partir de là, elles étaient comme aveugles. Alors que dans les autres cas précédents, même en crevant les yeux, elles étaient capables de voler sans percuter des petits fils suspendus dans la pièce dans laquelle il les avait lâchés et au bout desquels il y avait des clochettes. Le fait que la chauve-souris puisse voler sans toucher les fils avec les clochettes, c'est qu'elle arrivait quand même à se débrouiller, à détecter les fils et les fameuses clochettes pour les éviter. Mais à partir du moment où on leur a bouché les oreilles, là, elles étaient totalement aveugles. Et ça, c'est le type d'informations avec lesquelles on est resté. Et pendant 150 ans, ça a mis du temps. Et il a fallu qu'il y ait un biologiste américain pendant la Seconde Guerre mondiale qui travaille sur les radars pour l'armée. Et il y avait des chauves-souris dans la base militaire dans laquelle il évoluait. Et c'est comme ça qu'il a entendu ces appareils radars crépiter en passant devant les chauves-souris et qu'il a eu l'idée que peut-être ce crépitement traduisait une forme de langage de la chauve-souris pour réussir à repérer ce qui l'entourait. Et c'est à partir de là seulement qu'on a découvert l'écholocation. Et donc, moi, mes découvertes là-dessus, elles datent beaucoup de certaines lectures qui, petit à petit, ont commencé à éclairer sur comment vivaient ces animaux et, en tout cas, quelles étaient leurs capacités.
Laurent, on se retrouve dans 2 minutes, là, parce qu'on fait une première coupure et on te retrouve tout de suite après la publicité. À tout de suite. Voilà, donc nous retrouvons tout de suite Laurent Tillon qui est, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas encore avec nous, est biologiste et ingénieur forestier à l'ONF, l'Office National des Forêts. Alors, est-ce que, j'ai une question, alors c'est presque perso quoi, est-ce qu'il y a beaucoup de chauves-souris dans la forêt de Rambouillet ?
Oui, il y a plein de chauves-souris. Il y a plein de chauves-souris pour plein de raisons. La première, c'est que le système forestier tel qu'on l'a est très précautionneux vis-à-vis de la biodiversité. Il y a plein d'espaces dédiés à la biodiversité dans cette forêt. Mmh. Et donc, du coup, ça favorise leur présence.
Mais des espaces naturels, c'est pas nous qui les avons créés, c'est...
Alors, en fait, toutes les forêts qu'on a autour de nous sont quand même issues d'une empreinte humaine très, très forte.
D'accord.
Et il faut quand même avoir en tête que par le passé, la forêt de Rambouillet ressemblait plutôt à de la lande boisée qu'à la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, elle n'a fait que progresser. Et de plus, depuis maintenant 30 à 40 ans, on a une stratégie de gestion qui laisse vraiment toute sa place à la biodiversité. Et puis, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, ça permet notamment aux animaux de boire, les chauves-souris aussi, et ça, elles en ont particulièrement besoin. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, on dénombre 20 espèces différentes de chauves-souris en forêt de Rambouillet sur les 36 présentes en France.
Oh, c'est énorme ça, 36 espèces de chauves-souris, non ?
Bah, c'est à la fois beaucoup, à la fois quand on compare aux oiseaux, c'est quand même peu,
oui.
Mais ça reflète une belle diversité. Et en avoir 20 sur les 36 dans notre belle forêt de Rambouillet, c'est quand même bon signe. Ça démontre que globalement, notre paysage, et en particulier notre forêt, est plutôt en bonne santé.
Ah, d'accord. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que tu connais ces 20 espèces ?
Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je suis amené à les étudier, notamment certaines d'entre elles, tout particulièrement celles qui sont très, très, très dépendantes de la forêt, qui vont à la fois dans les arbres en journée pour se protéger et qui vont ensuite chasser au cœur des peuplements forestiers. D'autres sont un petit peu plus urbaines, mais parmi ces espèces plus urbaines, voilà, pour vous donner une petite idée, notamment, il y se trouve la pipistrelle commune, cette toute petite chauve-souris qui a la taille d'un pouce hein, et qu'on peut trouver derrière les volets de nos maisons. Et actuellement, là, j'en ai derrière les volets de ma chambre. Elles y passent quasiment toute l'année. Donc, même si elles vont chasser dans mon jardin, dans la rue dans laquelle je me trouve, elles vont aussi en forêt. Et donc voilà, certaines, je les rencontre un peu plus fréquemment que d'autres.
Ouais, elles n'ont pas choisi par hasard, à mon avis, de s'installer chez toi.
J'ai mis des panneaux, elles savent.
Non, parce que moi, alors, je suis un peu déçue, parce que j'habite dans la forêt de Rambouillet aussi, et je n'ai jamais vu de chauve-souris, quoi. Bon.
Alors, en réalité, c'est des animaux qui sont très difficiles à voir. Hein, et dans plein de cas, il y a des gens... Mais oui, il y a plein de gens qui ont des chauves-souris chez eux sans le savoir. J'ai une petite histoire, une petite anecdote à vous raconter à ce sujet-là. Mmh. Ça m'est arrivé un jour d'avoir une voisine qui m'a appelé en me disant « Je viens de voir une chauve-souris sur le mur de ma maison, je suis phobique, viens vite m'en débarrasser. » Et en arrivant, il s'agissait d'un bébé chauve-souris que j'ai récupéré pour le sauver. Et en menant l'enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grosse colonie de pipistrelles qui était sur le pignon opposé à l'entrée de la maison et qui donnait vers la forêt. Et quand j'ai demandé à la personne, du coup, il n'y a pas de chauve-souris chez toi, tu en es certaine ? Elle me dit, ah ben non, en plus, étant phobique, s'il y en avait, je le saurais. Et je me suis bien gardé de lui dévoiler ma découverte. Et probablement, vu les traces que j'ai trouvées, et que la colonie était présente depuis très très longtemps.
C'est fou ça, cette histoire ! Est-ce que pour nous, humains, ça nous apporte quelque chose de particulier ?
Ben, vous savez, en fait, les chauves-souris sont des animaux qui, depuis l'aube de l'humanité, sont complètement liés à notre histoire. Ah. Pour vous donner une petite idée, quand les premiers hommes ont colonisé l'Europe, ils ont colonisé un espace qui était très forestier et ils allaient sous roche pour s'abriter des mauvaises conditions, notamment la nuit, ils étaient abrités. Et dans certains cas, c'était même des entrées de grottes. D'accord. Et dans ces grottes, manière évidente, il y avait des chauves-souris. Et de manière assez étonnante, probablement que, alors que nous, on allait la journée en forêt pour chasser, déterrer des tubercules, récolter des baies, cueillir des fruits ou des légumes, on rentrait le soir à la tombée de la nuit. Et alors que nous, on s'installait dans ce lieu, les chauves-souris qui y habitaient sortaient pour la nuit aller chasser exactement dans les mêmes endroits. Et quelque part, vous voyez, c'est un peu comme si elles étaient nos fantômes de la nuit, mais peut-être que nous, on est leurs fantômes du jour. Et qu'on fonctionne un peu par opposition, mais en partageant exactement les mêmes habitats, tant pour se nourrir que pour habiter. Et donc, ces chauves-souris, elles sont proches de nous de manière assez constante. Alors après, c'est vrai que, il y a malgré tout des personnes qui en ont peur, il y a malgré tout des gens qui se posent la question de savoir quelle est leur utilité. Mais en réalité, toutes les chauves-souris qui sont chez nous sont des chauves-souris qui ne mangent que des insectes. La fameuse pipistrelle dont on parlait tout à l'heure, qu'on évoquait, qui vit notamment derrière mes volets, un individu mange 600 à 800 moustiques en une seule nuit.
Oh, mais quelle bonne idée !
Pour les humains, il est hyper important d'avoir la possibilité d'accueillir ces petits animaux. Et en forêt, on a notamment une espèce, ici, le murin de Bechstein. C'est une petite chauve-souris qui fait 10 grammes, malgré son nom compliqué, mais qui a la particularité, notamment, de se nourrir de chenilles susceptibles de manger les feuilles des arbres, ce qu'on appelle des chenilles défoliatrices. Mmh. Et en fait, ce murin de Bechstein, comme toutes les chauves-souris, vit en colonie de femelles. Donc, les femelles se réunissent pour, à un moment donné, être en capacité de s'entraider pour élever l'unique jeune que chaque femelle aura. Et donc, en fait, elles font des crèches. Hein, mais au moment, notamment du mois de mai, elles sont capables de manger plus de 1 million à 1 250 000 chenilles.
D'accord.
Une seule colonie. Donc, elles assurent un rôle régulateur des insectes susceptibles de ravager nos forêts, par exemple.
D'accord. On revient tout de suite.
Et en fait, pas importante.
Voilà. Ok, très bien. À tout de suite, Laurent. Merci. Voilà, nous retrouvons Laurent Tillon, alors, qui nous donne une image que je trouve passionnante et qui donne très envie de cohabiter sereinement avec ces animaux. Nous parlons des chauves-souris, parce que Laurent Tillon est un spécialiste, on va dire, de l'écologie des chauves-souris, et il a écrit plusieurs ouvrages, deux d'ailleurs, sur cet animal qui finalement... nous apporte que du bonheur.
Elle nous apporte que des bonnes choses, exactement. Plus on a de chauves-souris dans son entourage, finalement, et mieux on se porte.
Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement, parce que si en plus elle chasse les moustiques, moi ça m'arrange.
mais vous savez que beaucoup de gens, d'ailleurs, parfois ont peur hein, de ces fameuses chauves-souris, notamment le soir à la tombée de la nuit. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appelaient en me disant « Mon Dieu, j'ai des chauves-souris chez moi, j'en ai peur, vite, faut m'en débarrasser. » Et c'était des gens qui en avaient peur parce que parfois, elles s'approchaient de leur tête à la tombée de la nuit lors d'un bon repas partagé avec des amis. Et le cadre de la maison dans laquelle ils habitaient, c'était un paysage un peu boisé avec un petit cours d'eau à proximité, une petite zone de prairie. Et là, je leur ai posé la question, mais n'êtes-vous pas ennuyé par les moustiques? Et là, ils m'ont dit, ah ben non, c'est assez génial, ici, il n'y a pas de moustiques. Et là, je leur ai dit, il y en a énormément, sauf que vos chauves-souris qui s'approchent de vos têtes vous débarrassent des moustiques avant que ceux-ci puissent vous piquer. Et c'est vrai que de voir les choses comme ça, ça inverse la manière de considérer ces petites bêtes que sont les chauves-souris.
Alors, cette histoire de chauve-souris qui s'approche de la tête, ça me fait penser à quelque chose qui me semble m'avoir été dit quand j'étais petite, c'est que les chauves-souris, elles venaient dans les cheveux, elles s'en mêlaient et que c'était une catastrophe, quoi. Non ?
Ah, les chauves-souris qui s'accrochent dans les cheveux, les chauves-souris qui sucent le sang, ça on l'a beaucoup entendu, les chauves-souris qui portent malheur, comme je l'évoquais en début d'entretien. En réalité, tout ça, c'est faux. Hein. C'est des légendes qui ont été inventées à l'origine pour empêcher aux demoiselles, aux jeunes filles, de sortir le soir pour aller rencontrer des jeunes hommes. Voilà. Dans les campagnes, c'était la méthode qui était utilisée. Et ça marchait plutôt bien. Hein. Mais du coup, c'est resté jusqu'à nos jours de manière assez dramatique et on l'a encore en tête. Alors qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, on a toutes les preuves qui démontrent qu'il faut vraiment mettre de côté ces légendes qui n'ont pas lieu d'être.
C'est ça, d'autant plus que toutes les jeunes filles maintenant sortent la nuit dehors, tranquilles.
Exactement, exactement. Et pour autant, ont-elles des problèmes de chauve-souris dans les cheveux?
Pas du tout. Oui, on n'en entend pas parler de ça. Oh, mais c'est formidable. Moi, je suis ravie, en tout cas, qu'on parle de ces chauves-souris, de ces bêtes qui vous passionnent et qui, du coup, nous les rendent hyper sympathiques. Donc, vous avez écrit, Laurent, deux ouvrages que je vais citer maintenant. C'est « Les fantômes de la nuit ».
Exactement.
Et puis, des chauves-souris et des chauves-souris et des hommes, qui est plus récent. Et voilà, parce que finalement, à quel moment ça vous a donné envie d'écrire ?
Alors, l'écriture, c'est quelque chose qui est arrivé finalement assez tardivement. Moi, j'avais l'habitude de plutôt d'écrire des rapports scientifiques ou des articles scientifiques, mais c'est pas la même chose que de vulgariser pour tenter de mieux faire comprendre le monde vivant qui nous entoure. Et je me suis essayé à cet exercice-là, notamment à la demande de mon éditeur, avec l'ambition justement de mieux faire connaître ces petits animaux, mais en ne passant pas par le filtre de l'écriture encyclopédique. Et c'était un petit peu le défi finalement. Dans « Les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes », qui est donc l'essai qui a été publié en 2023, effectivement j'aborde tout un tas de sujets sur les chauves-souris et je questionne sur la manière finalement dont on doit considérer l'altérité, l'autre, la différence. La manière dont l'autre peut nous percevoir et inversement, du coup, la manière dont nous-mêmes, il faudrait qu'on change le regard pour aller vers ces animaux. Mais ça reste un essai. Et l'essai, l'écriture, la lecture est quelque chose qui parfois fait peur à un certain nombre de personnes. Et le lectorat peut préférer aujourd'hui d'autres formats. Et c'est ce qui nous a conduit à écrire avec un dessinateur un roman graphique. Oui. Qui s'appelle donc « Chronique d'une vie à l'envers », qui vient de sortir là, et qui reprend finalement les éléments qui étaient dans l'essai, mais sous forme de dessin, avec une très grande poésie et en même temps avec le plus de justesse possible autour de ce qu'on sait, de ce que la science sait aujourd'hui, à la fois de ce que sont les chauves-souris, à la fois de ce qui nous lie à elles. Voilà. Et l'objectif, c'était de finalement rendre toutes ces informations-là accessibles d'une manière différente. Et l'objectif, c'était vraiment de réussir à toucher un autre public que celui de l'essai des fantômes de la nuit.
D'accord, ok. Donc, si je croise une chauve-souris, il suffit que je dise bonjour et tout va aller pour le mieux.
Exactement, mais c'est surtout être attentif à elle. Si elle est posée tranquillement, pourquoi pas l'observer, mais la laisser tranquille.
Ah oui, d'accord, pas de trop près.
Voilà, lui laisser toute sa place. Et puis, moi, finalement, ce que j'adore faire, et notamment partager avec les gens qui viennent chez moi, c'est à la tombée de la nuit, s'installer tranquillement pour les observer partir, les observer sortir dans le paysage, voler au-dessus de nos têtes, regarder leur cabriole aérienne, et puis après, les laisser partir en forêt. Et
d'accord.
Ça, c'est
donc, c'est à la tombée de la nuit, il faut aller près d'un arbre et attendre.
Ben, ou même dans son jardin, vous voyez, près des maisons, il suffit parfois d'attendre tranquillement. Et c'est là qu'on peut se rendre compte de la présence d'une chauve-souris qui serait présente, soit derrière un volet, soit pourquoi pas sous le toit ou juste à côté de chez vous.
D'accord. Alors derrière les volets, j'en ai jamais vu, mais effectivement, il faut que je regarde sur le toit alors maintenant, peut-être.
Alors c'est vrai. Pour en avoir quand même derrière les volets, moi je sais que les volets de chez moi sont ouverts depuis 12 ans et ils restent ouverts, je ne les ferme jamais. Mais oui, ça stabilise le gîte, les animaux savent que c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne bouge jamais et donc elles peuvent s'y installer en toute confiance.
D'accord, à tout de suite Laurent, on se retrouve dans 2 minutes.